BFM Business présente. BFM Entreprise. Transmission, les règles. Sandra Gondouin.
Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Entreprise, l'émission qui plonge au cœur des boîtes tout au long de la semaine. Vous le savez, le lundi, on parle de leadership, le mardi des outils RH, le mercredi de croissance, le jeudi de transmission. Aujourd'hui, on va parler de transmission, mais finalement, c'est une émission un peu à cheval aussi sur le thème de la croissance. Une histoire d'entreprise, une entreprise qui est quand même devenue culte dans la restauration. Je veux parler de Matsuri. Adrien Chompré est avec nous sur ce plateau, PDG de Matsuri. Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir dans BFM Entreprise.
Merci,
Marie Téléchéa est avec nous également, avocate et fondatrice du cabinet Téléchéa Avocat.
Bonjour Sandra.
Bonjour Marie, ravie de vous avoir sur ce plateau. BFM Entreprise, on parle de transmission et de croissance. C'est parti.
Le témoignage.
Adrien Chompré, alors évidemment, PDG de Matsuri, Matsuri, tout le monde connaît cette entreprise de restauration. Moi, j'aimerais bien savoir qui vous étiez, d'où vous veniez avant d'être le PDG de Matsuri.
Très bien. Alors, je suis tombé dans la restauration un peu par hasard, il y a 20 ans. Et j'ai rejoint un groupe qui a démarré depuis quelques années, qui s'appelait Sushi Shop. Et cette rencontre, je la dois un peu à mon père, qui n'est plus là depuis quelques années, donc je peux lui rendre hommage ce soir, mais j'ai de restauration. Scandinave, en tout cas, c'était ce qu'il nourrissait. Et je rencontre à l'époque un des deux fondateurs de Sushi Shop. Et je l'invite à déjeuner pour lui parler de ce projet. Il m'est conduit très vite en me disant que ça l'intéresse pas, mais en revanche,
il a une autre bonne idée.
Mais voilà, il embraye sur son histoire et sur Sushi Shop qui avait démarré quelques années plus tôt et sur ses difficultés à se développer. Et voilà, donc de fil en aiguille, j'ai rencontré son associé et donc je me suis une sorte de c'est le bon momentum, en tout cas potentiellement une association qui pouvait faire sens parce qu'on était très complémentaires. Et donc voilà, donc je les ai rejoints, c'était en 2006. Hein, et on a ouvert ensemble le 7e restaurant à Paris.
Voilà. Donc
une histoire qui arrive, qui maintenant, c'est 20 ans de restauration.
Aventure Sushi Shop, vous aviez quel rôle, vous, dans cette entreprise qui est aussi mythique dans la restauration, d'ailleurs?
Merci. Particulièrement la finance et le développement.
Qu'est-ce qui vous a amené, au bout de plusieurs années, à quitter Sushi Shop et à se lancer dans cette aventure Matsuri? On va voir dans quel état, évidemment, était cette entreprise qui existait déjà. Mais qu'est-ce qui vous a fait passer le pas de changer de boîte?
Alors, le pas est souvent rythmé par le capital qui tient un agenda, notamment lorsqu'on fait rentrer un fonds d'investissement. Donc, on est très content d'accueillir un fonds d'investissement pour accélérer la croissance,
oui.
Pour se développer, ce qui a été notre cas dès 2011, fin 2011, début 2012. Et donc, c'était une très belle aventure, mais qui, à un moment, donne un agenda, comme je disais, et avec une liquidité. Et à ce moment-là, on s'est posé tous les trois et avec le fonds pour savoir quelles étaient les meilleures options. C'est en 2018 que la décision est prise. Et qui interviendra quelques mois plus tard. Et donc, on a cédé 100% du groupe, un groupe qui s'appelle Amres, qui est un groupe européen qui a plus de 1000 restaurants et qui développe depuis l'enseigne. Voilà, donc une petite année d'accompagnement, puis le Covid.
C'est vrai, ça tombe donc, pile à ce moment-là.
Juste avant le Covid.
Ouais, ouais, ouais. Et l'aventure Matsuri, vous commencez à prendre contact, à penser à Matsuri, à quel moment?
Alors, pas à ce moment-là, pas au moment de la cession, puisque jusqu'à vendre son entreprise, on a du mal à se projeter. C'est très, très difficile de le faire, même si on est conscient que la partie s'arrête.
Ouais.
C'est un peu d'ailleurs une sorte de précipice. On se retrouve face à, d'abord, pas trop vieux, donc on a encore des choses à faire, un peu d'énergie. Et donc, il y a beaucoup de questions qui s'agitent. Et donc, c'est après. Donc, le Covid était probablement la meilleure période pour réfléchir. C'est un cas très agréable. En tout cas, moi, je l'ai vécu de manière très, 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 très confortable parce qu'effectivement, libéré de plein de sujets, dans ce cas professionnel. Et donc, voilà. Et un jour, le coup de fil, mon téléphone sonne. Et c'est le patron de l'époque de Matsuri, propriétaire de Matsuri, qui m'appelle et qui me parle de son activité et qui me demande de l'aide financièrement pour essayer de racheter sa dette bancaire. Et potentiellement, il me demande si ça, au-delà d'être ce partenaire financier, si je peux l'aider dans son business. Donc voilà, on est dans une période très compliquée, difficile de se projeter, premier confinement. Vraiment, c'est un mois après le confinement qu'on commence à les discussions.
Donc, et un milieu,
il y a un petit moment.
En fait. Et un milieu de la restauration qui souffre, qui va souffrir encore plus dans les mois qui suivent.
C'est peu lisible, parce qu'à ce moment-là, il n'y a que la livraison qui fonctionne. Mm-hmm. Et Matsuri, c'est l'inverse de Sushi Shop, c'est de la restauration à table. Mm-hmm. Et donc, mais bon. Même dans les pires moments de doute pendant le premier confinement, on imaginait bien qu'on allait sortir de là et que la première chose qu'on allait faire, c'est potentiellement se mettre à table et se réunir. Donc bon, voilà, on avait quand même des petits coins de lumière et des choses à faire. Donc on a passé un peu de temps et j'ai commencé en fait à mettre un pied, mais en tant qu'associé très minoritaire, juste après le déconfinement.
Et on peut peut-être expliquer, Marie, parce que vous êtes spécialiste des différentes façons dont on transmet les entreprises et dont on les reprend, dans quel état est Matsuri ? On va parler ici de plan de sauvegarde, de procédure de sauvegarde. Ça implique une entreprise qui a des difficultés financières, en effet.
Absolument. Donc, Matsuri était en plan de sauvegarde.
Absolument.
Ouais. Donc, ça veut dire qu'elle avait fait un plan de restructuration de son passif qui avait été arrêté par le tribunal de commerce. Donc, pour résumer, en fait, c'est lorsqu'une société a des difficultés insurmontables mais qu'elle n'est pas encore en état de cessation des paiements, c'est-à-dire qu'elle a un bon business, elle a une rentabilité, mais souvent un endettement qui est trop lourd. Donc, elle se met en procédure de sauvegarde pour restructurer sa dette financière. En général, c'est ça le cas classique de la sauvegarde. Et là, au bout de la période d'observation, elle avait proposé un plan d'apurement du passif qui peut être sur 8 à 10 années, qui avait été validé par le tribunal de commerce. Mais malgré cela, je comprends que Matsuri recherchait quand même l'adossement à un partenaire, d'où l'appel à Adrien.
C'est intéressant parce que ça prend du temps. Vous avez parlé de la période d'observation. La période d'observation, elle peut durer longtemps, elle peut durer presque un an.
Elle peut durer 12 mois maximum.
12 mois, c'est ça, exactement. Donc ça veut dire que c'est quand même, en termes de réflexion pour un chef d'entreprise qui potentiellement va entrer au capital ou complètement reprendre l'entreprise, il faut un peu de temps, il faut avoir de la patience.
Oui, en tout cas, ça aménage une période, une bulle de temps qui permet effectivement de reposer les bases, de se reposer sur son business et d'essayer de dégager... réfléchir à une nouvelle stratégie pour effectivement rebondir. Mais à un moment, cette dette, il faut la rembourser. Donc elle est comprimée, en tout cas elle est poussée dans un plan et elle donne du temps à l'entreprise. Et c'est vraiment une chance, effectivement, d'avoir ce genre de dispositif. Donc moi, j'arrive à ce moment-là, j'arrive par la petite porte et puis non seulement j'arrive dans un momentum où l'entreprise a un peu de temps, mais moi aussi, dans le schéma financier qu'on avait imaginé avec mon prédécesseur, un peu de temps pour réfléchir à la suite. Donc j'ai eu un peu plus de deux ans, pour me dire, voilà, pour réfléchir à l'entreprise et savoir potentiellement ce qu'on pouvait faire avec Matsuri, mais dans un nouveau chemin, puisqu'il était clair que si j'actionnais potentiellement le rachat total de l'entreprise, parce que c'était le point fondamental de notre négociation initiale, il fallait arriver avec un nouveau projet qui est celui qu'on peut découvrir aujourd'hui.
Oui, on va le voir évidemment, ces idées, ce que vous avez remis pour que cette marque devienne ce qu'elle est aujourd'hui. On va peut-être rappeler, Marie, quelles sont les obligations des vendeurs dans un plan de sauvegarde comme celui-là pendant cette période charnière, et qu'est-ce qu'on attend aussi d'un potentiel repreneur?
Alors, contrairement au plan de cession, qui est un asset deal sur lequel j'interviens de temps en temps, là c'était une reprise des titres, donc 100% de la société. Donc on attend de l'acheteur qu'il ait les moyens déjà de reprendre 100% de la société, et donc d'apurer et de respecter le plan de continuation tel qu'il a été arrêté par le tribunal.
Oui.
On n'attend pas grand-chose du vendeur, sauf peut-être qu'il trouve quand même un bon repreneur. Après, dans le cadre d'un plan de sauvegarde, il n'y a pas vraiment besoin de l'autorisation du tribunal. Mais comme il y a un nouvel actionnaire de la société, il va y avoir forcément un nouveau dirigeant, donc une nouvelle personne qui va être tenue de respecter les engagements du plan. Donc il va falloir faire une modification du plan de sauvegarde au tribunal pour justement changer le dirigeant de la société Matsuri, qui est donc désormais Adrien. Mais voilà, ce qu'on attend, c'est juste un bon repreneur et qui a la capacité financière de reprendre et de poursuivre le plan de redressement et son passif.
La capacité financière. Et on sent que ça passe par là, en fait, votre décision. C'est soit on met des billes, soit on reprend entièrement la société. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui vous fait passer de l'un à l'autre? C'est la négo avec les banques? C'est, on vous dit, finalement, quitte à mettre cette somme-là, autant devenir patron à part entière. Qu'est-ce qui se passe en réalité?
Oui, enfin c'est sûr que pour donner de l'impact à une entreprise quelle qu'elle soit et à dérouler un projet, il vaut mieux avoir ce qu'on appelle la gouvernance, donc être décisionnaire. Et donc pour ça, il faut avoir la majorité au moins. Et puis c'est une histoire de l'émission s'appelle transmission. C'est aussi j'arrive à un moment où l'ancien entrepreneur qui a créé et fondé Matsuri est là depuis plus de 25 ans et est un peu plus âgé que moi, et donc voilà, le tempo est bon et on se retrouve sur ce projet commun, lui de sortir, moi potentiellement de réveiller cette belle endormie. Alors, je ne l'ai pas exprimé comme ça à l'époque, mais l'idée c'est je rebondis sur ce que disait Marie, c'est effectivement le plan nous permet de le faire en souplesse, c'est-à-dire que l'administrateur, et en tout cas il faut que le cessionnaire soit agréé, mais on attend de lui effectivement qu'il embarque un projet, des équipes et rassure bien sûr les banques sur la capacité à rembourser le plan et peut-être à faire davantage. Donc l'étape d'après c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est mis d'accord?
Et alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est mis d'accord? Effectivement, vous aviez quoi en tête, vous, pour cette entreprise, cette belle entreprise?
Alors, je vous l'ai dit, 2 ans, c'est long et assez court, mais c'est suffisamment de temps, en tout cas, pour réfléchir profondément à une stratégie, à une refonte globale, et c'était nécessaire. Moi, on avait identifié, alors je ne l'ai pas fait seul ce projet, j'ai fait entouré de 2 personnes que j'ai mis à la tête et qui sont les 2 directeurs généraux de cette entreprise, qui sont Céleste Vélardet qui a accompagné le groupe Big Mama et qui est plus jeune que moi, qui a 33 ans et qui a justement avait pour mission de mettre sa petite baguette magique pour rajeunir l'enseigne. Et puis un monsieur de mon âge qui s'appelle Sébastien Blanchet, qui lui a eu 2 vies, une vie d'auditeur financier, et donc quelqu'un qui s'est compté, et aussi qui a eu sa propre enseigne de pub, et que je connaissais par ailleurs personnellement, donc j'avais une grande confiance. Et donc ce binôme réuni, accompagné peut-être un peu aussi de mon expérience sur la restauration japonaise et de la capacité à développer un concept, on s'est dit bon, a priori, le trio peut fonctionner, les hommes. Et ensuite, le projet. Donc, faut faire simple. Quand on veut transformer, il faut tout revoir. Donc, le produit, on a essayé de moderniser la carte, la remettre au goût du jour. On a essayé également de changer le décorum. On a appliqué une règle assez simple qui avait fait justement le succès de, je répète, Big Mama, que j'aime beaucoup, qui est des lieux à chaque fois uniques, différents.
Mm-hmm. Il y a une patte, mais des lieux uniques.
Alors, on retrouve une marque, un ADN un peu clair, mais les restaurants sont moins chartés, donnent plus de sens, et l'expérience à table est surtout dans des espaces en centre-ville. Mm-hmm. C'est ce qu'attendent les clients aujourd'hui. Donc, c'était le deuxième postulat. Et puis ensuite, il fallait une nouvelle équipe. Il fallait renforcer. Donc là, c'est de la restructuration un peu plus lourde. Renforcer le siège qui est donc créer des fonctions support, achat, digital, marketing, formation, etc. pour relancer le parc existant et puis ensuite potentiellement aller chercher du développement et renouer avec la croissance.
C'est intéressant parce que quand vous parlez de vos partenaires, de cette participation, on entend dans cette émission Sushi Shop, on entend Big Mama, on entend Matsuri, ce sont les tendances de la cuisine parisienne ces 15 dernières années. On a l'impression qu'on a réuni tout dans une même entreprise pour avoir les bonnes formules. C'est ça, finalement, une entreprise à succès, c'est des bonnes idées, bien sûr, des fonds.
Des hommes et des femmes.
Des hommes et des femmes. Mais c'est un cocktail gagnant qu'il faut réussir à réunir.
On est dans une activité qui est difficile, dans une actualité, en tout cas un contexte économique qui n'est pas simple non plus.
Ouais.
Donc effectivement, on essaie de mettre toutes les chances de son côté. C'est sûr que la construction de l'équipe, qu'elle soit au niveau de la direction, en première ligne des directions de ces fonctions support dont je vous parlais tout à l'heure, c'est essentiel. On doit aller vite, donc on doit donner de l'autonomie, donc il faut embarquer, avoir une direction claire et avoir des gens qui sont compétents, qui savent faire, qui ont démontré qu'ils savent faire et qui sont aussi qui ont l'énergie et qui sont assez jeunes. Donc on a des gens qui ont de 25 à 55 ans, oui, je sais ça, je pense 55 ans, voire 60, oui. Donc c'est pas une question d'âge, pardonnez-moi, c'est vraiment la compétence. Donc réunir les bonnes personnes au bon moment.
Dans cette émission, le lundi, on parle de leadership. J'ai des patrons et je leur demande souvent, est-ce que diriger, c'est être seul? Et il y en a plein qui me disent, non, c'est être vraiment bien accompagné, voire accompagné par des profils meilleurs que soi. Vous êtes d'accord avec ça?
Je suis parfaitement d'accord avec ça. D'abord, moi, personnellement, je serais incapable de diriger une boîte seule. Ouais. Je trouve que c'est très difficile. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui y arrivent. En plus, les sujets sont de plus en plus complexes. Donc, pour avoir une vision globale sur des disciplines qui deviennent techniques, il faut être... voilà, probablement des compétences que je n'ai pas, donc être se rassembler autour d'un associé, de plusieurs associés, c'est plutôt plus efficace.
Oui.
On a besoin de bien s'entourer, c'est essentiel.
C'est intéressant parce que là on parle d'une entreprise à succès, Marie. Est-ce que une reprise avec ce type de procédure de sauvegarde justement, ça permet derrière de relancer le business de telle façon que ça donne ça le plus souvent? C'est pour donner toutes ces chances à la marque?
Bien sûr, de toute manière, la sauvegarde, c'est vraiment la procédure collective un peu light, c'est-à-dire on a des difficultés, mais on n'est pas encore en état de cessation des paiements. Donc
c'est pas punitif.
C'est pas du tout punitif et c'est un problème de dette financière. Donc ça peut être aussi un LBO qui peut pas être respecté, mais il y a un bon business derrière et justement une reprise des titres. Comme ça a été fait dans Matsuri, ça montre bien qu'il y a un appétit, c'est-à-dire on va pas à la barre du tribunal juste racheter les fonds de commerce, on veut reprendre 100% de la société. Et on voit que cet outil de la procédure de sauvegarde et du plan de sauvegarde, elle peut tout à fait amener à une très belle transmission et un très beau succès comme Matsuri.
Oui, effectivement. On va parler justement de croissance. Entre le moment où vous avez repris, donc c'était 2023.
Octobre 2023.
Et aujourd'hui, milieu 2026. Ça a donné quoi en termes de croissance, de chiffres, d'effectifs, de boutiques, de restaurants et d'expansion?
Alors les premiers mois, on s'est attaché à justement transformer l'entreprise, donc les équipes, donc une restructuration du siège. On s'est rapproché des banques, de BPI, sans qui en France. Peu de choses ne sont possibles dans nos métiers. Donc BPI, pour mémoire, c'est un organisme financier qui a pour mission d'accompagner les projets, les entrepreneurs et d'accompagner les banques dans la contre-garantie. C'est essentiel dans un dispositif. On est allé voir aussi la Banque de France, parce que quand on sort d'un plan, quand on est dans un plan, quand on veut sortir d'un plan, on a besoin de parler aux banques qui ont été peut-être un peu malmené avant la mise en place de ce plan, à BPI on pense déjà à la suite, donc on restructure, mais on se dit voilà comment on va pouvoir grandir demain avec vous si on doit venir vous solliciter pour continuer à se développer, on aura besoin de vous, donc on travaille avec eux en amont pour dire voilà notre projet, voilà comment on va faire, voilà à quoi ressemble maintenant le nouveau Matsuri, et donc voilà, c'est une démarche qui prend du temps. Et qui prend beaucoup de temps d'ailleurs. Donc les premiers 18 mois, ça a été transformer le parc en donnant beaucoup de vitesse. Donc on a mis 4 mois à restructurer techniquement l'entreprise et le siège. Commencer par ça, ACC l'ensemble des compétences dans les restaurants. Bon bah ça c'est effectivement regarder l'ensemble des équipes. Donc c'est 250 personnes quand même. Ça prend un peu de temps si on veut le faire bien. Et 4 mois plus tard, on a transformé la première, le plus petit, donc le plus facile. Puis ensuite un deuxième, un mois et demi plus tard. Donc on a restructuré le parc, les 12 restaurants que nous avons rachetés, en l'espace de 16 mois. Voilà, donc c'est allé vite. Très vite, on a vu ce qu'on avait vu plutôt juste, donc plus de 40% de croissance. À l'ouverture, dès les premières semaines de chaque restaurant, sans pub, donc on s'est dit waouh, on était quand même très contents. Je boude pas mon plaisir, surtout dans un contexte compliqué.
Ouais.
Mais c'est vrai que souvent on dit bon attention, le rétroviseur a été cassé. Donc oui, c'était effectivement beaucoup mieux que ce qui se faisait avant. Maintenant, est-ce qu'on pouvait faire davantage? Et peut-être oui. Donc on s'est quand même posé des questions de ce qui pouvait continuer. Accélérer et modifier profondément le concept, le cadrer encore plus, et d'expérience en expérience, de transformation en transformation. 16 mois après, on avait à peu près un modèle qui tourne, Et là, on s'est dit, bon, ok, c'est bon, on a des bons chiffres, ça marche, nos clients ont l'air d'être contents, on a réussi potentiellement à positionner, repositionner la marque, essayons de redémarrer. Et donc, on a fait un premier salon de la franchise, parce qu'on aime bien la franchise. Moi, personnellement, c'était un des grands moteurs du développement de mon ancienne entreprise. Et donc, on a commencé à discuter avec des entrepreneurs spécialistes de la restauration qui sont déjà des franchisés d'autres enseignes avec des, ce qu'on appelle les primo-accédants. Donc, des gens comme vous qui sont en conversion peut-être, qui disent, tiens, la restauration, c'est formidable, j'adore ça. Et peut-être
j'aimerais bien ouvrir un matsuri.
J'en ferai mon métier et je vais passer de l'autre côté, je vais devenir entrepreneur. Voilà, donc ça, c'est un process. Et aujourd'hui, donc, on a doublé de taille. On a un peu plus, on va ouvrir le 21e et 22e restaurant la semaine prochaine. On a deux qui vont la semaine prochaine. Hélas, le calendrier ne se passe jamais comme on le souhaite. On aura doublé de chiffre d'affaires en l'espace de 3 ans et demi à la fin de l'année. Et une croissance à périmètre constant qui est de plus de 52%. Donc, c'est un pari
c'est
réussi
tout le monde
pour l'instant. voilà.
dans ces chiffres.
Maintenant, pour teinter un peu, c'est vrai qu'on voit que l'industrie dans laquelle on opère tous les jours est compliquée. On a des sujets de pouvoir d'achat. On voit bien que le ticket moyen, il y a une sensibilité. Donc, on est très, très vigilant. Et donc, notre objectif, c'est d'être toujours au meilleur rapport qualité-prix. Et donc c'est un travail de chaque instant. Le sujet est pas léger. Donc fondamentalement, on voit des enseignes qui ont du mal et c'est des taux de croissance négatifs à deux chiffres. Le premier trimestre a été assez mauvais dans la restauration, moins 10 à moins 15. Nous on est sur un like for like à plus 5, mais c'est un moment qui est difficile, mais comme tout moment difficile, effectivement, c'est le point de départ pour être très incisif et se remettre en question et être performant.
Oui, c'est ça. Vous avez commencé à en parler, mais ce serait quoi pour terminer les erreurs à ne pas commettre ? Vous avez une expérience dans ce domaine-là, vous avez repris aussi l'entreprise d'une certaine façon. Je veux dire, vous avez absolument conscience de la fragilité et du secteur et de la période. Et comment on fait justement pour pas garder ce chiffre de croissance en permanence ? Enfin là, c'est pas possible, mais en tout cas, tenir cette barre, répondre à la demande du consommateur, à son pouvoir d'achat et ne pas faire sombrer la boîte. Enfin, en réalité, rester une marque forte.
Bien sûr. Alors, bon, il faut d'abord être le plus agile possible et tester en permanence. Alors, nous, on est un peu aidés par justement ce qui fait l'origine de Matsuri. On est passé un peu vite, mais c'est un petit train qui tourne autour devant les clients.
C'est et on tire absolument attractif et addictif, hein, ce petit train de mai qui passe. Ça, on est d'accord, c'est une réussite. Hein.
En tout cas, c'est ludique. Ça plaît un public très large. Et c'est vraiment un concept qui est pas familial, qui plaît aux enfants, aux adolescents, aux jeunes et aux parents, aux grands-parents. Donc, un lieu de réunion aussi, où on gère son temps, mais on prend du plaisir. Donc, ce n'est pas... Et Matsuri, c'était fonctionnel uniquement au départ, et c'est devenu ludique, familial, c'est exactement là où on voulait aller, donc ça, on est très content. Maintenant, les points d'attention, c'est effectivement le produit, le prix, et donc les tendances qui bougent très vite. Et notre chance, c'est qu'on n'est pas encapsulé dans une carte, donc une carte, ça dure 3 mois, 6 mois, 2 fois, 4 fois par an. Là, on peut tester des choses tous les jours. Donc il suffit de décider de mettre sur des assiettes qui ont une couleur différente, un prix différent, des nouveaux produits. Et le client ayant toujours raison, c'est lui qui décide en fait. Donc on teste une nouvelle recette, elle marche, elle est prise, super, on la valide. Donc on a du temps et de l'agilité pour le faire. Donc moi je suis fan de ce modèle parce que on sort complètement du prisme d'une carte où le client est dans une carte et on ne sait pas ce qui va se passer en cuisine, ce que le client va percevoir la carte et ce qu'il va commander. Ça crée des rushs en cuisine. Là on est sur une sorte de buffet géant. Et si on est bon, les gens prennent les assiettes, ça va vite, tout le monde est content, et nous on peut piloter nos marges et justement s'ajuster en permanence. Voilà. Tant qu'on fait ça, et qu'on peut faire ça, a priori on arrive à à surnager.
Quand on vous écoute, ça a l'air facile, hein, mais bon, on sait ce que c'est que la restauration, ce secteur qui est particulièrement exigeant. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans cette émission. Adrien Chompré, PDG de Matsouri, Marie Téléchéa, avocate et fondatrice du cabinet Téléchéa Avocat, nous avoir raconté cette histoire passionnante d'entreprise, de transmission et de croissance. Émission à retrouver à 12h30. Vous pouvez aussi la retrouver sur notre appli, sur notre site. Très bonne journée sur BFM Business.
BFM Entreprise, transmission, les règles sur BFM Business.